Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons cette semaine retrouver Anatole de Monzy, notre compatriote. Anatole de Monzy, bien qu'il soit né le 22 novembre 1976 à Bazas, en Gironde, il était le fils d'un directeur des contributions directes d'origine périgourdine, issu d'une famille de petite noblesse et d'ancienne fortune. L'expression est de lui. Anatole de Monzy fit dans la vie une entrée fulgurante. Une domestique peu attentive laissa sa voiture d'enfant se retourner, ce qui lui valut au bébé une fracture du col du fémur que le médecin ne jugea pas utile de réduire, plus confiant sans doute à la nature qu'à sa propre compétence. Et il restera et boitera comme Talleyrand. Alors il fera des études au lycée d'Agen, au collège Stanislas, et il sera licencié en lettres et licencié en droit. Et il épousera Julia Gabriel Colasso-Isorio. Il sera député du Lot de 1909 à 1919, puis sénateur et à nouveau député du Lot jusqu'en 1942. Alors avocat, Anatole de Monzy fut en 1920 le défenseur de Joseph Caillaux devant la Haute Cour. On en reparlera peut-être un jour. Alors, il y aura bien sûr des responsabilités, gouvernementales. Il sera chef de cabinet de Joseph Chaumier, sous-secrétaire d'État à la Marine Marchande, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en 1925, ministre de la Justice. En 1925 également, ministre des Travaux publics, ministre de l'Éducation nationale en 1934. Mais par contre, il était contre les langues régionales. Alors il déclare en 1925, lors de l'inauguration du pavillon de la Bretagne, de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris pour l'unité linguistique de la France, la langue bretonne doit disparaître. Voilà. Alors, il était, bien sûr, on a dit, il était misogyne, et il va écrire en 1936 un livre dont on a déjà parlé, qui s'intitule « Les veuves abusives ». Alors donc c'est Bernard Grasset en 1936, donc vous pouvez le trouver assez facilement d'ailleurs chez les bouquinistes. Alors il y a, on l'a vu, bien sûr plusieurs femmes, des Virago. Alors il y a Marie-Louise, impératrice des Français et veuve maudite. Ça c'est le titre du chapitre. Et il y a un petit explicatif des mémoires de Joseph Fouché, duc d'Otrante, dans le tome 2 de ses mémoires. Voilà ce que nous dit Fouché. C'est en mise en route, Pauline se croisa dans Bruxelles avec Napoléon et Marie-Louise qui se dirigeait vers la Hollande. La forcée de paraître à la cour, la nouvelle impératrice, saisissant l'occasion de lui faire une injure grave, elle se permit, en la voyant, de passer dans un salon, de faire derrière elle, et avec des ricanements indécents, un signe des deux doigts que le peuple n'applique dans ses grossières dérisions qu'aux époux crédules et trompés. Alors voilà ce que nous dit Anatole de Monzy sur cette personne. Si par jeu d'opinion oisive, ou sa visée de faire élire au scrutin public la plus détestable veuve de l'histoire, ce plébisciste d'opprobre désignerait à coup sûr l'archiduchesse Marie-Louise, épouse de Napoléon, première impératrice des Français, et trinube, illustre entre toutes. Frédéric Masson, qui pour parler de cette drôlesse impériale, devait s'imposer une discipline de déférence convenait de l'unanimité hostile et méprisante faire au cours d'un siècle et parmi toutes les nations sur le nom de cette médiocre messaline. J'ai à parler, écrivait-il, d'une femme contre qui s'élèvent les préjugés de tout un peuple qui depuis 100 ans est en France un objet de détestation et dans le monde entier un objet de mépris. Il sied que la femme de César soit coquette et inconstante afin de contenter et du concurrence de scandale, c'est pas facile à lire, notre prurite d'égalité humaine. Encore faut-il qu'il y ait à défaut de la grandeur du pittoresque dans l'adultère. La manière bourgeoise de Marie-Louise exclut le pittoresque de toute aventure. Elle irrite comme une scène de plate comédie au milieu du drame antique. Au fait, cette jeune fille et femme d'empereur se plaisait à jouer elle-même la comédie. Elle jouait mal, ainsi qu'elle dessinait mal, chantait mal, faisait mal toutes choses dont elle prenait la fantaisie, mais un certain raffinement d'inconscience présidait au choix de ses rôles, puisque vers la fin de son existence vaine, elle tenait un emploi dans les deux maris d'Eugène Scribe. Voilà, et c'était en 1810. Alors, bien sûr, on pourrait continuer un peu la lecture. Le meilleur jugement qu'ait mérité Marie-Louise s'inclut dans un dialogue de la pétulante duchesse d'Abrantès avec l'impératrice Joséphine. « Que pensez-vous de cette femme ?» me dit l'impératrice en me regardant avec une expression singulière. « Moi, madame, ce que j'en ai toujours pensé, c'est que c'est une femme qui n'aurait jamais dû passer la frontière de France et d'Allemagne, je le dis du fond du cœur. » Voilà, on va continuer un tout petit peu cette lecture, on va passer à une prochaine, comment je pourrais dire, virago en quelque sorte, et il s'agit de Caroline Massin, épouse Auguste Comte, ou le malheur du philosophe. Alors donc je prends un peu la lecture, et s'il y a un petit encart, elle espéra toujours me transformer en machine académique qui lui gagnant de l'argent. C'est Auguste Comte, alors on ne peut pas dire que c'était le grand amour. Alors, voici ce que nous dit le texte. Auguste Comte, ayant rencontré dans la pénombre du palais royal une fille aimable qui lui donna des leçons d'amour, lui rendit la politesse quelques années plus tard en lui donnant des leçons d'algèbre. Puis il l'épousa parce que c'était plus commode. Cette Caroline Massin, qui est devenue Madame Comte, devait mener quelques tapages avec ce nom. Avait donc figuré sur les registres de la police avant d'être inscrite. Alors ça se passait le 19 février 1825 sur les registres de l'état civil de la mairie du 4e arrondissement. Débauché à 16 ans par un avocat parisien, Maître Cerclé, qui devait achever au Conseil d'État une brève carrière de conspirateur et une longue carrière de galantin marié à 23 ans avec ce jeune philosophe sans grâce physique, mais elle avait su guider des expériences charnelles et reçu des répétitions de mathématiques. Elle était, à n'en point douter, une adroite et astucieuse personne, capable de mener une bonne fin, une entreprise d'accaparement, qu'elle en fût la durée et la difficulté. Sinistre, elle n'hésita point à choisir comme témoin de son mariage son premier amant, M. Cerclé, qui ce jour-là prenait l'hypothèque sur le nouveau ménage. Ainsi bafouait-elle au seuil de la monogamie le lourdeau qui est associé à son destin de gloire. Voilà, c'est pas trop gentil. Alors bien sûr, il y a d'autres femmes dans ce livre. Il y a l'affaire, ce chapitre qui s'intitule l'affaire Claude Bernard. Alors, il y a un petit préambule, deuil, mensonge, noir, et c'est de Jules Renard dans son journal. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Alors, sur Claude Bernard, le 16 avril 1978, le conseil municipal de Villefranche-sur-Saône votait une résolution rédigée de la sorte. Entendu que dans sa séance du 26 mars, le conseil municipal a émis le vœu qu'une souscription fût ouverte dans les 15 communes du canton de Villefranche où est né Claude Bernard, à l'effet d'élever une statue de cet illustre savant sur l'une des places de la ville, et que la commission chargée d'assurer le succès de la souscription fut composée de M. le maire de Villefranche, président et des 5 conseillers municipaux, et de M. les maires des 14 autres communes. Alors, je ne vais pas vous lire tous les délibérés. Alors, on nous dit le conseil municipal, laissant M. le maire toute responsabilité de sa conduite, parce qu'il va renoncer, renonce à l'initiative qu'il avait prise. Il exprime l'espoir qu'un comité privé ne tardera pas à reprendre l'œuvre patriotique dont, à son grand regret, il ne peut poursuivre directement la réalisation. Et il se déclare prêt à lui venir en aide par le vote d'un crédit. Voilà, c'était quand même la moindre des choses. Alors, ensuite, il continue. Alors, il nous dit, donc sur cette affaire Claude Bernard, je fais un tel récit sur la foi de documents qui ne manqueront pas d'être divulgués par des soins tardifs, mais la tradition orale suffirait à attester l'exactitude des détails que je rapporte. Cette tradition que Zola recueillit au temps où il projetait de transposer dans la fiction du docteur Pascal le personnage réel de Claude Bernard, erreur de Zola, ben c'est l'auteur qui nous le dit, son erreur partisane fut de vouloir représenter l'épouse ennemie sous les traits d'une bigote en lutte avec les libertés du savoir moderne. La religion était peu à peu dans le cas de Madame Claude Bernard qu'animait la déconvenue de la bassesse, sa vanité déçue, sa cupidité déçue, sa stupidité déçue. Il est vraiment pas agréable avec les femmes. Hein. Bon, alors, et que si Claude Bernard apparaissait aux contemporains pareil à un spectre de la science n'inspirait d'hostilité à sa sordide compagne qu'en fonction de lui-même, objet exclusif d'aversion et de rancune, centre de tous les maléfices respectables, de toutes les malédictions, aucun être ne fut si continuellement victime d'une si médiocre et féroce paranoïa. Voilà. Alors, bien sûr, il y a d'autres personnages dans ce livre. Il y a Madame Maliaré Michelet, et puis il y a bien sûr une conclusion. Il y a Cosima Wagner. Alors, Cosima Wagner, on peut se dire, il entre dans la gloire musicale, un semblant d'éternité qui la rend pernicieuse aux femmes, inassimilable par des cœurs de femmes. C'est pourquoi le deuil que pratiquèrent plusieurs épouses de musiciens très illustres, eut l'aspect d'un commerce de luxe en continuation succédorale. Ces veuves, disait Jules Lemaître, constituent le commerce du défunt, selon l'épitaphe connue. Voilà, alors on va continuer un tout petit peu. Il y a bien sûr la comtesse Tolstoï avec un petit préambule de Platon. Ô Socrate, s'écria Xanthippe, c'est donc maintenant que tes amis te parlent pour la dernière fois et que tu vas leur parler. Mais Socrate, ayant jeté de regard sur Criton, lui dit Criton, qu'on reconduise cette femme à la maison, et les valets de Criton amenèrent aussitôt Xanthippe qui vociférait et se frappait. Alors, on va terminer un peu cette lecture. Il y a une conclusion. Et cette conclusion est donnée par simplement le titre, ma conclusion, voilà, si j'arrive à le dire. Alors, il nous dit dans cette conclusion, ou dans sa conclusion, l'homme cherche par la femme à se rendre éternel, par l'enfant, il dicte Schopenhauer, non par la femme, et sans qu'il ait lieu d'appeler un tiers de démon de l'espèce, entité du dernier bateau scolatique, cette idée qui domine la vie de Goethe, son plan de vie, inspire les suprêmes incantations à Nietzsche. Nietzsche, plus que quiconque, dénonce vilipende, flétrie, maudit, bafou, la femme idole, la femme jouée, la pédante, la rusée, la coquine, sa souplesse, sa ruse, son égoïsme incoercible, ses religions d'esclaves, ses insolences, sa tyrannie, n'empêche que nul n'a exalté l'éternité de l'amour avec le plus mystique allégresse. Écoutez Zarathoustra haranguant un candidat au mariage. Un jour, vous devrez aimer par-delà vous-même. Apprenez donc à aimer d'abord. C'est pourquoi il vous faut boire l'amer calice de votre amour. Il y a de l'amertume dans le calice, même dans le calice du meilleur amour. C'est ainsi qu'il éveille en toi la soif au Créateur. La soif du Créateur, flèche du désir surhumain. Dis-moi, mon frère, est-ce la ta volonté du mariage? Je sanctifie de telle volonté à un tel mariage, volonté de jouissance, mariage dans la pérennité d'une joie volontaire. Alors il y a quelques phrases en allemand que je n'ai pas pu traduire. Alors on va continuer un tout petit peu. Scandé par l'hébétement d'une cloche qui solennise le chant d'ivresse, psaume du retour éternel s'achève sur cette affirmation que toute joie veut son éternité, une profonde, très profonde éternité. Toute joie, même la volupté, et c'est en ce sens que Kierkegaard avait prononcé l'homme synthèse du temporel et d'éternel. Un quart d'heure ou toujours, soupirait allègrement cette bœuf, lequel n'opta qu'une faute de mieux pour le quart d'heure des chambrières. Faute de mieux, Stendhal multiplia l'enchantement des caresses brèves. Faute de mieux, Flaubert se campa en Don Juan retraité, mais obsession de quelque chose d'éternel, d'un semblant d'éternel, persiste jusque dans les âmes les plus sèchement administrées. Voilà. Ben, on va arrêter là un peu donc ce livre qui s'intitule Les veuves abusives d'Anatole de Monsier, paru chez Bernard Grasset en 1936. Et je vous dis à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.